Radio Django, la rose des vents.
Et ce soir, Luma nous a rejoint un micro pour parler de nos découvertes au festival de Locarno, car on était en août. Salut Luma.
Salut Claudia, bonjour à toutes et à toutes. Oui, en effet, nous avons eu la chance de participer à la 61e édition du Festival du film de Locarno. Et ce soir, nous vous emmenons en Asie du Sud. Nous nous sommes intéressés à la section Open Doors, une initiative qui tente de mettre en lumière les cinématographies des pays d'Asie du Sud. Ces pays se caractérisent notamment par une industrie du cinéma assez réduite et une très forte influence de Bollywood. La scène indépendante peine donc à se démarquer face à ce géant. Open Doors vise donc à soutenir des réalisateurs et réalisatrices qui souhaitent avoir des contacts internationaux et se connecter avec les professionnels présents à Locarno.
Durant ces trois dernières années, huit pays qui entourent l'Inde ont été à l'honneur. Il s'agit de l'Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Bhoutan, Népal, Sri Lanka et des Maldives. Nous avons eu la chance de rencontrer deux femmes qui nous ont parlé de cette initiative, chacune d'elles apportant un point de vue différent sur celle-ci. Tout d'abord, Sarah Schisser, qui travaille pour Locarno Pro, le pôle des professionnels de l'industrie cinématographique à Locarno et qui est également en charge de l'initiative Open Doors.
Et ensuite, on écoutera Diana Sakeb, réalisatrice afghane, dont le court-métrage Dark Red a été sélectionné et qui a également participé aux workshops organisés par Open Doors.
Alors, sans plus attendre, entrons avec Sarah Schisser dans les coulisses d'Open
Alors,
Doors.
Alors, Open Doors est né en 2003. C'est d'ailleurs une initiative qui est née conjointement entre le Festival de Locarno et la Direction du développement et de la coopération du ministère des Affaires étrangères, avec l'envie commune d'effectivement mettre en lumière le cinéma de ces pays. Donc, il s'agit d'une section particulière du festival, mais qui en même temps représente vraiment l'esprit, je pense. L'objectif est de mettre en lumière et faciliter les connexions vers les cinématographies des pays du sud et de l'est. Donc il s'agit des pays qui ont des industries de cinéma très réduites, qui commencent à se tourner à l'international pour ce qui concerne la scène indépendante. Et voilà, notre objectif est soutenir des réalisateurs, des producteurs qui veulent se connecter à l'international pour faire face aux difficultés qu'ils ont pour réaliser des films dans leur pays. Ça peut être au niveau financier, structurel, politique. Et on fait cela justement en créant des plateformes, des workshops pour qu'ils puissent se connecter aux professionnels à Locarno.
Quels ont été les pays à l'honneur ces trois dernières années? Puis pourquoi sur trois années?
Pendant ces trois dernières années, les pays à l'honneur ont été huit pays dans l'Asie du Sud. Effectivement, c'est la première fois que Open Doors se concentre sur la même région pendant si longtemps. Pour les premières années, jusqu'à 2015 inclus, l'initiative changeait de focus chaque année. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, surtout quand on approche des pays qui ont vraiment des communautés cinématographiques très petites, limitées, cela ne suffit pas. Alors, en approchant notamment ces pays de l'Asie du Sud, qui étaient vraiment plutôt méconnus, à part quelques exceptions sur la scène internationale, on a décidé de rallonger le focus pendant trois ans. Et voilà, on finit ce premier cycle maintenant et on est plutôt satisfait des résultats. Pendant trois ans, nous avons vraiment pu approcher les différents acteurs dans les différents pays. Eux, entre eux, ont eu le temps de se connecter, de développer de collaborations. Et c'est pour cela que le prochain focus d'Open Doors va également être sur trois années.
Quelle est la particularité de cette cinématographie? Bah, tu as parlé avant de difficultés, mais quelle est la particularité? Est-ce qu'il y a des différences par rapport au cinéma qui est fait en Europe?
En général, ces pays sont quand même très influencés par tout ce qui est Bollywood. On a choisi les pays qui entourent l'Inde. L'Inde était déjà un focus particulier d'Open Doors en 2011. Et la scène indépendante a du mal à ressortir un peu. Au-delà de ça, effectivement, les pays en question n'ont souvent pas de fonds publics, des institutions qui soutiennent ou protègent le cinéma, notamment qui n'a pas le but complètement commercial. Si en Europe, le cinéma est financé presque totalement par des fonds publics, cela n'est pas du tout le cas en Asie du Sud et non plus en Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est une très grande différence. Ce qu'on fait à Open Door, c'est justement faire comprendre ou faire voir à ces réalisateurs et producteurs qu'à travers le fonctionnement du cinéma en Europe, ils peuvent avoir accès à ce type de fonds. Mm-hmm. Souvent, les films indépendants, ils sont aussi un peu problématiques dans les pays d'origine au niveau de la distribution même. On a eu le cas de quelques registres, réalisateurs qu'on a rencontrés, par exemple au Sri Lanka, dont le film a dû attendre, a été distribué en Europe et on a dû attendre beaucoup plus longtemps pour être distribué au Sri Lanka même. Mais c'est le cas pour plusieurs de ces pays. Ils doivent souvent gérer aussi des systèmes de censure qui, même s'ils ne sont pas toujours vraiment très stricts, ils prennent quand même du temps.
Et à niveau de sécurité personnelle, par exemple?
C'est une question très sensible. On a eu, pas forcément dans nos sélectionnés, mais ça se passe assez souvent, disons qu'un tel réalisateur ou réalisatrice reçoivent de menaces ou de manifestations de non-support, disons, à cause de tel ou tel film. Ça pourrait être un film qui est très reconnu à l'international, mais qui n'est pas du tout accepté au niveau local. Il y a aussi au niveau de projets que l'on a sélectionnés, par exemple, des histoires qui traitent de thèmes d'homosexualité ou de certaines questions politiques de relevance dans les pays d'origine. Et du coup, effectivement, il se peut que ces projets, ces films, une fois qu'ils sont réalisés, ils provoquent une certaine réaction dans l'audience, dans le pays.
Tu as dit juste avant que vous étiez assez satisfait, quand vous avez fait le bilan de ces 3 années, que vous étiez assez satisfait du résultat. Est-ce que vous avez eu un peu des échos et du public et aussi des participants, des réalisateurs qui ont participé au lab et aux autres workshops?
Il y a deux volets, le côté professionnel et le côté plus accès public, c'est les projections Open Door Screenings. Pour cela, pendant les 3 années, tout en restant sur la même région, même si avec des sub-focus différents chaque année, on a eu une très bonne participation et il me semble que le public Open Door s'est très affectionné. Mais surtout, ce qui est également satisfaisant sont les retours des activités professionnelles. Je pense que l'un des points de mesure du succès de l'initiative est que, par exemple, on a des films qui étaient au stade de projet il y a 2 ans, en 2016, qui vient de se tourner. Il y a un film qui est en post-production, 2 qui se sont terminés, qu'on verra probablement dans quelques festivals dans les prochains mois. Et tout cela pour des pays comme ceux de l'Asie du Sud qu'on traite, c'est assez exceptionnel. En rassemblant à Locarno les différents représentants du cinéma des divers pays, des collaborations entre les pays se sont créées naturellement. Et ça, c'est très beau à voir. Il y a un court-métrage qui a été coproduit entre Népal et Myanmar. Mais ce n'est pas qu'au niveau des films, c'est aussi au niveau des initiatives. Il y a par exemple un festival au Népal, justement, qui a mis en l'honneur une sélection de films du Bangladesh. Et on sait que les participants restent en contact. Et du coup, voilà, on contribue peut-être aussi à créer un petit réseau régional.
Et dernière question, tu as dit du coup que 2018 c'était l'année de clôture, donc clôture c'est 3 ans autour de l'Asie du Sud, donc quelles sont les perspectives futures?
On a décidé de rester en Asie avec l'espoir de garder peut-être quelques liens avec la région de l'Asie du Sud et on va donc passer à l'Asie du Sud-Est plus la Mongolie. Disons que la situation est un peu différente parce que il y a des pays comme les Philippines, la Thaïlande qui sont un peu plus présentes sur la scène internationale déjà, mais des autres comme la Mongolie, le Laos, mais aussi le Vietnam qui ont décidément besoin d'un coup de main.
Et en attendant les programmes de l'édition 2019, on vous propose une interview avec une réalisatrice afghane qu'on a rencontrée à Locarno.
Oui, Claudia, à la sortie de la projection des courts-métrages d'Open Doors, entre parenthèses, nous avons trouvé d'une très grande qualité qui nous ont beaucoup touchés. Nous avons eu la chance de rencontrer Diana Sakeb, qui nous a parlé de son court-métrage Dark Red.
On écoute donc l'interview.
It's hard for me to say that what is the subject, because it's like it's a story. There is no subject, I think.
C'est assez difficile de dire quel est le sujet, car c'est avant tout une histoire. Le focus est fait sur un très court moment de la vie d'une femme afghane, tout à fait ordinaire. Il ne s'agit ni d'une intellectuelle, ni d'une femme très éduquée, mais d'une femme portant la burqa, d'origine plutôt modeste. Par contre, c'est une femme profonde, une femme de caractère. J'ai choisi cette histoire car j'ai toujours voulu montrer une autre facette de la femme afghane, mais aussi de l'Afghanistan. En Europe, à l'étranger, les gens nous voient souvent comme des victimes ou comme des héroïnes. Si tu fais des changements dans ta vie, que tu pars à l'étranger, on parle de toi comme d'une héroïne. Sinon, tu restes une victime. Pour moi, il est important de montrer que nous sommes tout simplement des êtres humains, même les femmes qui portent des burqas. Bien sûr, elles font face à de difficiles challenges, mais comme toute autre femme et être humain, elles ont des rêves, des vies secrètes et de nombreuses belles choses au fond d'elles.
Yeah, of course. In Afghanistan, it's a taboo to for any woman to have a secret life is a real taboo, and it can be very, very dangerous, especially for the married women.
Toute femme qui a une double vie prend des risques importants, spécialement pour les femmes mariées qui peuvent même y perdre la vie. Mais je connais beaucoup de femmes ayant des doubles vies. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Ce qu'elles vivent, ce qu'elles essaient de construire, c'est ça qui est important. C'est dangereux et difficile, mais c'est le seul moyen pour elles de se sentir vivantes. Souvent, elles ne reçoivent pas d'amour, d'attention de leur mari, de leur famille, de la société. Donc, ces échappatoires sont vitales pour elles.
For them to grab it, maybe for a very very short period of the time, maybe not. Otherwise, I think they cannot continue their life. It's so hard to continue without love and being loved.
You're a woman, director woman, and what is difficult to be in woman and to make movies in Afghanistan?
Well, as we spoke in the theater, being a woman is always difficult, and it's difficult everywhere, I think.
Être une femme, c'est toujours difficile, et cela l'est dans le monde entier. Mais en Afghanistan, c'est dur. Dans leur vie de tous les jours, les femmes font face à de nombreux défis. Mais lorsque vous êtes artiste, réalisateur, ou d'une autre profession exercée principalement par des hommes, cela est assez tabou et peut rendre la situation compliquée. Tu dois toujours te justifier, cacher des choses. Être une femme en Afghanistan, c'est un boulot difficile. Tu dois toujours te battre, ce qui n'est pas le cas des hommes. Oui, ils ont aussi des défis, mais nous, nous devons faire avec le double défi. Dans mon cas, je dois faire face au défi d'être réalisateur, plus à celui d'être une femme. Oui, c'est difficile, car les gens ne te font pas confiance sous prétexte que tu es une femme. Ils ne te croient pas capable de faire quelque chose de bien. Ils te voient comme quelqu'un à qui il manque de l'expérience, des capacités et du pouvoir. Et comme ma collègue du Bangladesh l'a dit après la projection de nos films, des fois, lorsque, enfin, on te fait confiance, on t'appelle « monsieur ». Car une femme compétente est sûrement une femme qui possède un côté masculin plus prononcé. Sinon, elle ne pourrait pas faire ce genre de job. Et en tant que femme, tu dois toujours te justifier, dire que « oui, je suis une femme et je peux faire les choses même mieux qu'un homme ».
And as a women from Afghanistan, you always have to mention them that no, I am a woman and I can do a lot of good stuff, even better than you, because I am a woman with very, very powerful and strong insight. Culture of cinema, it doesn't exist anymore in Afghanistan. We don't have the culture. Our problem.
La culture du cinéma n'existe plus en Afghanistan. Le problème n'est ni l'absence d'infrastructures ou de financement, il s'agit plutôt d'enjeux culturels. Nous avons eu une longue expérience de guerre et sommes encore partiellement en guerre. La guerre a détruit toute forme de culture. Dans le passé, nous avions une culture cinématographique en Afghanistan. J'en ai beaucoup entendu parler par mon père. Les gens, à Kaboul, allaient au cinéma avec leur famille ou leurs amis. Mais la guerre a tout détruit, et pas seulement les infrastructures, mais cette culture également. Tout est donc à reconstruire, et c'est au peuple de le faire, car notre gouvernement ne s'intéresse pas à la culture. C'est donc notre responsabilité, en tant que réalisateur, artiste, membre de la société civile, d'amener des changements à ce niveau. Il nous faut parler aux gens, organiser des projections, montrer nos films. Ces 10 dernières années, j'ai organisé des festivals de films à Kaboul. J'ai toujours choisi des cinémas fréquentés par des gens ordinaires. J'ai toujours dû négocier avec le gouvernement qui voulait être payé, ce qui n'était pas possible puisque nous avions déjà des difficultés à trouver des fonds pour le festival lui-même. Nous avons toutefois réussi. Il est essentiel, à mon avis, que le cinéma soit accessible au plus grand nombre, que nos concitoyens et concitoyennes puissent voir des femmes, mais aussi des hommes, sur le grand écran et dans les coulisses. Les gens doivent retourner au cinéma, comme dans le passé.
They should see films, they should see women, they should see men on the stage, behind the stage, and this is really important, I think.
Et c'était Diana Sakeb qui nous a parlé de son court-métrage Dark Red. Nous avons également écouté Sarah Schisser qui nous a parlé de l'initiative Open Doors au Festival de Locarno où on était avec Luma. Alors merci Luma.
Merci Claudia.
Et rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2019.
Avec grand plaisir. À l'année prochaine.
On l'espère. Et vous pouvez également réécouter l'émission en podcast sur django.fm. Et on continue à parler de cinéma et de documentaire avec Le Tour d'Érythrée de Denis Chabroulé, un film qui montre comment en Érythrée le cyclisme est devenu le sport national devant le football et l'athlétisme. La Fédération cycliste érythréenne organise en fait tous les ans une trilogie autour des plus grandes villes du pays, des ruines de Massawa sur le bord de la mer Rouge à la capitale Asmara, en passant par Keren et Tézéné. Un documentaire de 52 minutes qui sera présenté ce vendredi à Pôle Sud dans le cadre d'une soirée organisée en collaboration avec l'Association pour la promotion de la musique traditionnelle et moderne érythréenne éthiopienne en Suisse. On écoute un extrait du film. Connaître l'Érythrée autour du cyclisme, on a écouté des sons d'ambiance dans ce documentaire Le Tour d'Érythrée qui sera présenté ce vendredi à Pôle Sud dès 19h avec un repas érythréen. Le film sera projeté à 20h30. Il y aura des témoignages qui vont suivre pour parler de la situation actuelle en Érythrée et pour finir, il y aura de la musique érythréenne pour danser au rythme de l'Érythrée.
baby, 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 baby,